Bonsoir Xavier Huillard.
Bonsoir.
Vous êtes le PDG de Vinci. Alors, est-ce qu'il faut encore présenter Vinci? Numéro 1 mondial du BTP, leader dans les concessions autoroutières, numéro 2 mondial dans la gestion des aéroports, etc., etc. Si on regarde l'année 2019, parce que vous êtes là en partie pour ça, vous venez de présenter vos résultats. Une année tout simplement record chez vous. Comment ça s'explique?
C'est effectivement une année record avec 10% d'augmentation de l'activité, qui est faite de croissance organique, mais également de l'effet des acquisitions d'entreprises que nous avons réalisées en l'année précédente. C'est une année qui est également très tonique en matière de prise de commandes dans tous nos métiers de contracting, c'est-à-dire nos métiers de la route, nos métiers de la construction, nos métiers d'énergie. Nous terminons l'année avec un carnet de commandes qui est à plus 10% par rapport à l'année dernière. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est vrai dans tous nos métiers et c'est vrai dans toutes nos géographies. Et donc, il y a une conjonction.
Pourquoi c'est étonnant? Vous étonnez vous-même de remporter des contrats?
Non, je ne dis pas étonnant de remporter des contrats, mais simplement qu'il est assez peu fréquent d'avoir des indicateurs au vert sur l'ensemble du spectre,
c'est-à-dire
que ce soit
exemple,
les métiers.
Insensible à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, insensible au ralentissement commercial, ça ne se voit pas chez vous aujourd'hui?
Ça ne se voit pas en 2019 et je pense que ça ne se verra pas non plus en 2020 compte tenu du carnet de commandes que nous avons au 1er janvier 2020 et qui est en augmentation de 10% par rapport à l'année précédente. Donc l'année 2020 continuera à être une bonne année, certes moins tonique que ce que nous avons vécu en 2019, mais néanmoins une bonne année.
Pourtant, je le disais, vous êtes le numéro 2 mondial de la gestion des aéroports. Vous êtes des aéroports partout dans le monde, hein, du Japon au Portugal en passant par la France. Il y a bien évidemment beaucoup moins de touristes chinois en ce moment à cause du coronavirus. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce qu'une partie de vos aéroports, je pense par exemple aux Japonais, sont vides en ce moment à cause de cela?
Alors, nous gérons chaque année, ça a été le cas de l'année dernière, 255 millions de passagers au travers de nos 45 plateformes qui sont réparties dans 12 pays. Le touriste chinois, nous le voyons essentiellement sur nos plateformes au Cambodge et nos plateformes dans la région du Kansai au Japon. Donc de façon indéniable, je m'attends à voir effectivement une baisse des chiffres de fréquentation de ces plateformes induite par la baisse, voire parfois la disparition des voyageurs chinois. Mais quand on fait le compte de ce que représentent les voyageurs chinois sur ces plateformes, ça représente à peu près entre 5 et 6% de notre nombre total de voyageurs.
Donc pour vous, pas d'inquiétude pour le moment?
Pas d'inquiétude pour le moment. Tout dépend évidemment de la manière dont tout ça va évoluer, la manière dont ça va éventuellement se diffuser au travers d'autres pays, ce qui n'est pas le cas à mon avis pour l'instant.
Vous faites donc partie des grands noms des aéroports dans le monde et vous venez d'annoncer là quelque chose de très fort. Vous voulez pénaliser les avions les plus polluants dans vos aéroports. Alors quand vous dites polluants, vous notamment c'est les avions les plus bruyants. Il paraît que généralement ça va de pair. S'ils sont bruyants, c'est qu'ils consomment beaucoup. De façon très concrète, pourquoi vous faites ça et quel est le but?
Non, j'aime pas trop le mot pénaliser. Ce que nous avons indiqué, c'est que nous proposerions aux régulateurs, parce que ce n'est pas nous qui décidons de façon autonome, les redevances aéroportuaires. Donc nous allons proposer de façon systématique aux régulateurs qui regardent ces tarifs de décomoduler les redevances que nous demandons à recettes constantes, c'est-à-dire qu'il y aura des plus et des moins, mais l'idée, ça n'est pas d'optimiser nos recettes, l'idée c'est simplement...
L'idée c'est de faire payer un petit peu plus ceux qui polluent, un petit peu moins ceux qui sont
voilà.
Vertueux.
Alors ça se fait déjà un peu dans le domaine de la pollution sonore. Notre sentiment, c'est qu'il faut maintenant essayer de l'implémenter sur la pollution CO2, c'est-à-dire que les compagnies aériennes qui ont des flottes récentes, qui sont beaucoup plus vertueuses en termes d'émissions de CO2, soient quelque part récompensées d'avoir fait cet effort en ayant des redevances qui soient modulées par rapport à la redevance moyenne.
Si on regarde vos aéroports en France, vous avez par exemple l'aéroport de Lyon ou l'aéroport de Nantes. Grosso modo, vous êtes un petit peu comme un Hidalgo qui dit pas de diesel, vous vous dites aux compagnies aériennes, les non vertueuses, je n'en veux plus. C'est ça que vous leur dites?
Oui, je ne le dis pas de façon aussi caricaturale, simplement parce que le constat, vous l'avez fait comme nous, c'est-à-dire que le monde de l'aérien est un monde qui est très organisé. Pour une raison simple, c'est que le problème de la sécurité aérienne a été, dès le début de l'aviation, dans tous les esprits. Et donc, vous avez remarqué comme moi que les compagnies aériennes, et a fortiori des gens comme nous qui gérons des plateformes, sont des gens qui très rapidement se sont organisés de telle sorte de rapidement réduire leur empreinte en matière d'environnement et notamment de CO2. Il y a eu des gens comme EasyJet qui ont décidé dans un premier temps de compenser intégralement l'ensemble de leur empreinte CO2 dès le 1er janvier 2020. Il y a eu des gens comme Air France qui ont décidé de le faire dans un premier temps sur leur vol en France, etc. Et donc le monde de l'aérien s'est organisé de telle sorte d'accélérer leur marche vers un monde décarboné.
Donc vous voulez participer à ce mouvement et les aider à accélérer.
Alors, nous le faisons vis-à-vis des compagnies aériennes, mais nous le faisons aussi chez nous. C'est-à-dire que sur nos plateformes, ce dont nous avons la pleine maîtrise, ce qu'on appelle en jargon le scope 1 et 2, sur nos plateformes, nous avons pris l'engagement de réduire de 50% nos émissions de CO2 à l'horizon 2030, et ce, dans le grand plan Vinci, qui a été élaboré dans le courant 2019, et par lequel, au global, Vinci prend l'engagement de réduire de 40% ses émissions de CO2 à l'horizon 2030.
On va revenir sur vos autres métiers et comment vous voulez faire avancer tout cela. Un mot, je suis obligé de vous en parler à chaque fois. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, vous avez obtenu une indemnisation, vous en êtes où, des discussions avec l'État pour vous faire rembourser de cet aéroport que vous deviez construire?
Non, nous disons...
On attend toujours.
Nous disons de façon constante que nous souhaitons l'ouverture de négociations nous permettant de simplement clôturer ce sujet.
Il n'y a toujours rien. Vous n'avez toujours pas une lettre, un coup de fil de la part du ministère de la Transition écologique.
Non, mais nous pensons que ça pourrait venir. En tout cas, c'est tout à fait souhaitable que ça vienne. Et parce que c'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. Lorsqu'il y a une rupture anticipée d'un contrat, eh ben, il faut se mettre autour de la table, calmement, de façon à discuter des conséquences au regard du contrat et au regard de l'économie que ça perturbe.
Ce qui veut donc dire être indemnisé de l'argent que vous aviez investi dans ce contrat.
Non seulement de l'argent que nous avons investi, mais également de la création de valeur que nous avons réalisée. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que nous sommes en charge de ces 3 aéroports que sont l'aéroport actuel de Nantes, la plateforme de Saint-Nazaire et la potentielle plateforme de Notre-Dame-des-Landes qui maintenant ne se fera pas. Donc nous avons énormément développé le trafic. Il a plus que doublé dans cet espace de temps, en moins de 10 ans. Donc nous avons créé beaucoup de valeur. Nous n'en avons pas eu le retour. Et par ailleurs, nous avions un contrat qui restait à courir pour les 45 prochaines années. Et donc il est naturel, comme ça se passe partout dans le monde, que des discussions s'ouvrent de façon à ce qu'on puisse tirer les conséquences de cette résiliation qui a été décidée il y a un certain temps par l'État.
Vous êtes l'un des leaders au monde des concessions autoroutières et bien évidemment de nos fameuses autoroutes en France. Vous aviez été très impacté par les Gilets jaunes. Certains disent que vous gagnez un petit peu trop d'argent sur le dos des automobilistes. Déjà, d'un premier point, on a l'impression que ça y est, les automobilistes sont de retour, il n'y a plus de blocage sur vos péages?
Alors, il n'y a plus de blocage significatif sur nos péages, si ce n'est de façon extrêmement ponctuelle. Nous avons bénéficié en 2019 d'un effet report, puisque nous avions une base de comparaison de décembre 2018 qui était particulièrement mauvaise, compte tenu des mouvements sociaux que nous avions à cette époque. Ça n'a pas été le cas en décembre 2019, et donc nos augmentations de trafic d'une année sur l'autre bénéficient d'un effet de base qui était très largement négatif. Par ailleurs, il est indéniable que nous avons eu davantage de clients sur nos autoroutes au mois de décembre du fait des grèves sur le transport ferroviaire, les grèves à la SNCF.
On peut savoir aujourd'hui combien ça vous a coûté, les Gilets jaunes?
Non, on avait indiqué à l'époque, il y a un an, que ça nous avait coûté plus de 100 millions d'euros. Mais ça dépend comment vous comptez entre les pertes de recettes liées à l'ouverture des barrières de péage et les dégradations qui ont été très nombreuses. Je voudrais juste en profiter pour à nouveau tirer mon chapeau à nos collaborateurs qui ont vécu il y a un an exactement des épisodes extrêmement difficiles et qui n'ont jamais cessé de penser aux services publics dont ils ont la charge à travers cette concession.
Vous cherchez à pousser dans toutes vos activités vos clients, vos fournisseurs à changer les habitudes. Vous nous parliez des aéroports. C'est vrai aussi sur les autoroutes. On ne peut pas faire quand même un petit geste en plus là, pour les voitures électriques, pour le covoiturage? Vous en faites déjà un peu, mais c'est quand même un poil timide.
On peut faire beaucoup mieux.
On peut faire beaucoup mieux en
développant le covoiturage sur les autoroutes, en proposant des voies dédiées pour des transports collectifs sur autoroute et le covoiturage. Et tout ça, ça suppose des infrastructures. On peut également développer ce que nous faisons, des réseaux cohérents de recharge pour véhicules électriques. À la fin de cette année 2020, nous aurons un réseau de recharge électrique sur nos aires d'autoroute qui, peu ou prou, correspondra à une recharge tous les 80 km. Ce qui commence à être suffisant pour que les automobilistes...
Et en termes de tarifs, vous ne pouvez pas faire un petit effort?
Alors, ça n'est pas aujourd'hui conçu comme cela. Ce que nous avons fait comme effort l'année dernière, ça n'était pas à destination du véhicule électrique, c'était pour favoriser les trajets du quotidien à travers l'abonnement Ulysse 30, qui a trouvé ses clients, puisque nous en avons À peu près un peu plus de 50 000 aujourd'hui, et qui permettait d'avoir une réduction de 30% sur les trajets inférieurs à 25 km, à la condition que ce soit des trajets du quotidien qui soient faits plus de mémoire 10 fois dans le mois.
On parlait d'une année record, vous avez gagné plus de 3 milliards d'euros l'année dernière du côté de chez Vinci. Vous annoncez, je crois, ce soir, sur Europe 1, que vous décidez de prendre une des dispositions de la loi Pacte, et vous allez permettre à 100% de vos salariés français de pouvoir bénéficier et d'être actionnaire de Vinci. Ça veut dire quoi de façon très concrète? Chaque salarié pourra être actionnaire du groupe Vinci?
Je vais vous répondre. Je voudrais juste prendre un peu de recul. Ça fait déjà très longtemps que nous sommes convaincus qu'il faut jeter des ponts, des passerelles, entre le monde du capital et le monde du travail. Et le moyen le plus efficace pour le faire, c'est de développer ce qu'on appelle l'actionnariat salarié. Nous sommes déjà très, très, très développés en la matière, avec en France peut-être 80% de nos salariés qui sont d'ores et déjà actionnaires du groupe Vinci. Nous avons souhaité profiter d'une disposition de la loi Pacte qui permet de faire un abondement unilatéral pour donner à chacun de nos collaborateurs, c'est le même montant pour tout le monde, un montant de 400 euros qui sera immédiatement investi en actions Vinci. La conséquence de ça, c'est qu'à l'heure où nous parlons, 100% de nos collègues français sont actionnaires du groupe Vinci. Et collectivement, nous possédons à peu près 10% du capital du groupe, quand on compte bien. Et à ce titre, nous sommes de très loin le plus gros actionnaire du groupe. Et je crois qu'un capitalisme moderne se doit de développer ce genre d'excellents principes qui permettent d'être certain que l'intérêt des salariés et l'intérêt du capital soient bien alignés.
Bruno Le Maire, ici même, à Europe 1, il y a quelques jours, le ministre de l'économie a dit « faut mieux payer les petits salaires ». Est-ce que vous êtes prêt à faire un geste aussi là-dessus? Ou c'est votre réponse aux augmentations de salaires?
Non, mais on le fait par ailleurs. Vous savez que nous sommes très décentralisés. Le groupe est découpé en 3500 business units. Donc les décisions sur les augmentations de salaires ne se prennent jamais de façon centralisée. Elles se prennent sur le terrain par des discussions, des négociations entre les partenaires sociaux sur le terrain. Et donc nous faisons régulièrement les gestes qu'il faut, de telle sorte qu'effectivement nous ayons une bonne récompense au profit de nos salariés, et en particulier les salariés les plus modestes.
Vous êtes l'un des grands patrons du CAC 40, ce sera ma dernière question. Une bataille se joue en ce moment du côté d'Engie, c'est l'ex-GDF, ça va se décider demain 17h30, et a priori on peut quasiment l'affirmer ce soir, c'en est fini du sort d'Isabelle Kocher, seule femme à la tête d'un groupe du CAC 40. Il y avait une tribune de soutien pour elle en début de semaine dans la presse. Vous auriez pu la signer?
Vous savez, je crois que l'important dans toute cette affaire, c'est Engie. Les groupes dont nous avons la charge sont plus importants que nos personnes. Par ailleurs, le job de patron d'un grand groupe, c'est un job qui n'est pas simple. C'est de la chimie fine. Vous devez en permanence intégrer des préoccupations qui sont parfois contradictoires à base d'économie, de stratégie, de social, de sociétal, d'environnemental, de management. Tout ça n'est possible, parce que c'est compliqué, qu'à la condition qu'il y ait d'abord une bonne notion du temps, c'est-à-dire qu'on laisse un peu le temps aux gens d'exprimer la qualité de leur action, et que par ailleurs, il y ait une excellente relation de confiance et de sérénité entre le management, le CEO et son conseil. Et donc, moi, mon souci, c'est simplement que Engie, qui est une très grande maison, qui a ouvert la voie sur un grand nombre de sujets, retrouve le chemin de cette confiance et de cette sérénité. Après, les moyens de retrouver cette confiance, cette sérénité, ce n'est évidemment pas à moi d'en juger.
Eh bien, merci beaucoup, Xavier Gare, le patron du groupe Vinci, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.